Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries, j'ai rendez-vous dans les locaux de l'association Osiris à Marseille, un centre de soins d'orientation psychanalytique dont l'objectif thérapeutique est de soulager la souffrance post-traumatique. Rencontre avec deux de ses membres, Julia Masson et Véronique Juillon, dans un entretien croisé. Bonjour à toutes les deux, on est dans les locaux de l'association Osiris. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez commencer par m'expliquer déjà qui vous êtes et puis qu'est-ce que c'est Osiris ?
Bonjour, donc moi je m'appelle Julia Masson, je suis psychologue et coordinatrice pour l'association Osiris. Osiris, à l'origine, est un centre de soins qui a été créé en 1999, dont le mandat est le soutien thérapeutique pour les personnes qui ont été victimes de tortures et de répression politique. Au fil des années, le projet s'est développé et s'est étoffé, puisque maintenant, depuis 3-4 années, on a, en plus du centre de soins, deux autres activités. La première qui est Osiris Interprétariat, qui propose donc un service d'interprétariat spécialisé dans le domaine de la santé. On pourra y revenir peut-être plus tard. Et également des actions de soutien aux professionnels dans l'ensemble de la région sur la question de l'accès aux soins pour les personnes exilées.
Comment en fait ça s'articule les trois ? Comment en fait vous est venu notamment le fait d'articuler la nécessité de proposer de l'interprétariat et puis effectivement de proposer aussi des formations pour des professionnels qui n'auraient pas l'habitude de travailler avec ces publics ?
Alors c'est essentiellement à cause ou en raison en fait des problématiques de délai d'attente, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de demandes pour des prises en charge au centre de soins. Et on a relativement peu de disponibilité, sachant que quand un patient est pris en charge, il a des rendez-vous très réguliers qui sont la plupart du temps hebdomadaires. Donc on arrive relativement vite à un effet de saturation du centre de soins. Et également parce qu'au niveau du centre de soins, on se rend compte que c'est important d'avoir un nombre de patients relativement limité. C'est-à-dire que si on a trop de patients, à un moment, ça fait aussi des effets de confusion sur les suivis, etc. Et donc du coup, on a eu des délais d'attente qui ont été extrêmement longs, pouvant aller même jusqu'à plusieurs années. Ce qui nous a amené en interne à réfléchir à pourquoi ces délais d'attente étaient si longs et ce qui nous a progressivement amené à la question de l'accès aux soins, des difficultés d'accès aux soins pour le public exilé, notamment en santé mentale. Ce sont aussi des problématiques qui sont travaillées au niveau national avec d'autres structures, etc. Mais c'est vrai que pratiquement tous les professionnels de ce champ font le constat que, notamment dans les difficultés d'accès aux soins, il y avait en premier la problématique du manque ou de l'insuffisance du recours à l'interprétariat professionnel, notamment en santé mentale. Mais pas que, il y a aussi souvent les professionnels peuvent faire part de difficultés dans la compréhension de la situation des personnes, que ce soit ce qu'ils ont vécu ou sur la souffrance liée au traumatisme, etc. Donc aussi des demandes de soins ou d'accompagnement socio-juridique des fois très complexes, très lourdes, avec des équipes en difficulté pour prendre en charge ces personnes. Donc un besoin aussi d'être soutenu, accompagné pour ces prises en charge. D'où progressivement, le projet de l'association a évolué du centre de soins vers également des missions qui sont censées favoriser l'accès aux soins de ces personnes et donc aussi nous focaliser sur le centre de soins plutôt en seconde intention avec l'idée que les personnes peuvent avoir un accès aux soins dans d'autres lieux de soins quand c'est possible.
Qui sont les personnes qui sont reçues chez vous ?
Au niveau du centre de soins, on accueille des personnes qui ont été victimes de ce que nous appelons des violences intentionnelles, c'est-à-dire des violences induites par l'homme dans le cadre de conflits politiques, de guerres. Au fil des années, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui vivent aussi des violences extrêmes pendant le trajet migratoire. Donc ça, bon, c'est des choses qu'on entend pas mal aussi aujourd'hui dans les médias, etc. Mais dont on est aussi directement témoin, hein, puisqu'on va de plus en plus traiter ou accueillir en tout cas la souffrance en lien avec ces parcours. Et enfin, on a aussi des personnes qui, malheureusement, lorsqu'elles arrivent en Europe, et là, en l'occurrence en France, vont être confrontées à des difficultés administratives, sociales, juridiques, à un environnement pas forcément favorable en matière d'accueil. Et donc, c'est aussi de cette souffrance-là dont il est question. Donc finalement, au fur et à mesure des années, on va, en fonction de là où en est la personne, accueillir cette souffrance, que ce soit en lien avec ce qu'elle a pu vivre dans son pays, sur le parcours ou en France.
Parfois, j'ai très envie de pleurer, et ce n'est pas facile. Les difficultés ont été énormes, et j'avais envie de pleurer. Au niveau de la tête, parfois j'ai mal à la tête. Parfois, je parle tout seul, quand je dors. Mais je suis en bonne santé. À l'époque, j'avais le groupe de parole, et je ne sais pas si ça existe encore, car je travaille, donc je ne peux pas venir. Afghan, 27 ans, réfugié.
ضرور نه يم ز په خوب کې ډارېږم زه درست خوب نه کوم او زه رواني درملنې ته اړتیا لرم په رښتیا روان آرام نه یم ځکه چې ما تاسو ته د ژبې د زده کړې په اړه ویلي وو چې زه هیڅ شی نه زده کوم کله چې ما ته ای بی سي را زده کړل او بیرته یې له ما پوښتنه وکړه چې کومې ای ده کومې بی او کومې سي نو ما د دې توانایي نه درلوده چې هغوی ته درست ځواب ورکړم د دې لپاره چې په همدغه اواخره کې ما ته خبر راغی چې زموږ د کور شاته دوه یا درې طالبان مړه شوي وو زه اوس 42 کلن یم خو ما په خپل ژوند کې په دې کچه تاوتریخوالی نه و لیدلی نو زه څنګه کولی شم چې یو شی زده کړم څنګه کولی شم چې د خپل سر بوج اداره کړم زه سوسیاله نه لرم په ټولنیزو کارو کې راسره مرسته نه کیږي رواني درملنه نشته کور نه لرم کار نه کوم تر اوسه ما تصمیم نه ده نیولی چې کار وکړم ځکه چې د چا د سر وضعیت ښه نه وي او کور ونه لري هغه کار نه شي کولی 42 کلن افغان کور نه لري او ښځه او ماشومان یې په هیواد کې دي
Moi, je dors bien. Mais ma femme, elle fait parfois des cauchemars où elle rêve de la guerre et des avions. Couple syrien, 34 et 27 ans, réfugié.
Véronique, vous êtes aussi membre de l'association Osiris, donc vous êtes assistante sociale. Une personne qui vous est adressée, elle vient pourquoi et vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ?
Pour répondre à ça, c'est intéressant de comprendre comment on en est venu à Osiris à se dire que l'accompagnement social était une nécessité et que l'accompagnement social de ces personnes allait faire partie du soin, allait participer au soin. Ce qui est important de voir, c'est qu'à Osiris, jusqu'à 2016, l'accompagnement social, il se faisait en lien avec l'extérieur, avec les partenaires, et notamment avec un partenaire historique, on va dire, qui était la plateforme Asile de l'époque, où donc toute une série de personnes qui étaient en demande d'asile et qui ne pouvaient pas avoir accès à des hébergements dédiés aux personnes en demande d'asile et donc accompagnées par cette plateforme tout au long de la procédure, ces personnes nous étaient orientées mais bénéficiaient d'un suivi social à l'extérieur. Sauf que fin 2015, changement au niveau de la loi, mais aussi changement au niveau des missions des plateformes, et plus d'accompagnement social, même si l'accompagnement social reste inscrit dans les missions de ces structures, on se rend compte en fait que c'est vraiment juste de l'accès aux droits. Et donc des personnes qui se retrouvent sans accompagnement, sans interlocuteur, sans accès aussi parfois à la langue, et donc à une information dans leur langue, et des personnes en errance. Donc ce partenaire historique n'a plus été un partenaire pour Osiris. Et par contre, de plus en plus de personnes sont soit venues spontanément à Osiris en étant en errance et en cherchant un lieu où être accueillies, et avec justement une demande qui n'était pas forcément une demande de soins, parce que sans forcément identifier Osiris comme un lieu de soins, en tout cas comme un lieu ressource. Et donc avec des choses très, très intriquées entre la souffrance psychique et la souffrance administrative, juridique qui est rencontrée sur le territoire. Et cette question du non-accueil et de l'absence d'accompagnement de ces personnes, on l'a vu par ces venues spontanées, mais aussi avec le changement sur qui nous oriente. Et donc dans les personnes qui nous orientent, beaucoup de personnes du soin, donc qui vont repérer ces personnes, et aussi beaucoup, ça peut être des personnes, des collectifs, des personnes bénévoles qui sont amenées aussi à accueillir ces personnes. Donc dans quand les personnes viennent ici, elles se retrouvent souvent dans un dénuement qui peut être, j'ai envie de dire, total, ou en tout cas qui touche à tellement de choses. Donc ça va être des personnes qui n'ont pas de logement, qui ont des droits, mais qui vont avoir des droits théoriques. C'est beaucoup le cas pour les demandeurs d'asile, des personnes qui étaient sous procédure Dublin, qui vont se retrouver dublinées pendant 18 mois, ou qui enfin peuvent accéder à une demande d'asile et qui pour autant ne vont pas avoir d'allocation, ou vont avoir des ruptures d'allocation qu'ils ne comprennent pas, ne vont pas accéder à la sécurité sociale. C'est un ensemble, en fait, du fait de cette absence d'accompagnement. Et forcément, cette situation en France et ce dénuement administratif et social en France va venir faire écho aussi à des situations de maltraitance, de violence qu'ils ont pu vivre et va être une situation de maltraitance. On parle de maltraitance administrative et juridique quand on parle de la situation de ces personnes en France. Donc l'accompagnement qui va être fait au niveau social, il est extrêmement large puisqu'il va porter sur tout ça. Il va porter sur l'accompagnement au récit de la demande d'asile quand c'est nécessaire. Il va porter sur toutes les conditions matérielles. Et sur la question de l'accompagnement au récit, il y a des fois un accompagnement juste parce que la personne a besoin d'un interlocuteur pour l'aider dans ces démarches-là. Mais il peut y avoir aussi un accompagnement plus spécifique quand c'est des personnes qui ont des difficultés, par exemple, de mise en mots, de narration de ce qui a pu leur arriver.
Finalement, en fait, la loi et l'évolution des lois vous forcent à vous adapter. Parce que des origines d'Osiris, plus sur les questions de torture, d'exil, etc., vous vous retrouvez effectivement face à des parcours de précarité, finalement. Ça bouleverse un petit peu, j'imagine, l'organisation d'une association et le rôle des personnes à l'intérieur.
Je pense que c'est, malheureusement, c'est surtout que ça se cumule, en fait. C'est-à-dire que les personnes que nous recevons restent, de toute façon, des personnes qui ont vécu des choses extrêmement violentes en lien avec des faits de torture, etc. Et qu'il y a cette souffrance qui est aussi à accompagner et à soulager. Et en même temps, il s'avère que ces personnes, pour une partie, sont également dans des situations de grande précarité, ce qui nous oblige aussi à adapter notre travail clinique à ce qu'on pourrait appeler aussi une clinique de la précarité, en plus de cette clinique plus de l'exil et du trauma que nous pratiquions depuis longtemps. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tous les patients que nous suivons, mais pour un nombre assez important, en tout cas, pour nous obliger, dans le bon sens du terme, à repenser aussi notre manière de travailler et d'accueillir.
Je ne suis pas en bonne santé. Je fais des cauchemars, je ne dors pas bien. J'ai besoin d'un suivi psychologique. En fait, mentalement, je ne suis pas très tranquille, car je vous ai parlé de l'apprentissage de la langue. Je n'arrive pas du tout à apprendre. On m'a dit que ça faisait A, B, C, et si on me dit que tel est A, qui est B et quel est C, je ne peux pas les identifier. Car récemment, j'ai entendu que 2/3 des talibans ont été tués derrière notre domicile en Afghanistan. Finalement, j'ai 42 ans. Pendant ces 42 ans, je n'avais jamais vu autant de violence qu'en ce moment. Comment apprendre quelque chose maintenant? Comment gérer cette pression sur ma tête? Je n'ai pas de suivi social, pas de suivi psychologique, pas de logement, pas de travail. Pour l'instant, je n'ai pas envisagé de travailler, car lorsqu'on n'est pas dans une bonne situation, dans sa tête et sans logement, on ne peut pas travailler. Afghan, 42 ans, réfugié, sans logement, femme et enfant au pays.
او زماس رکیږي چې وژاړم ځینې اوقات سر مې درد کوي ځینې اوقات یوازې له ځان سره په خوب کې غږیږم اما زما روغتیا ښه ده یو وخت کې زه د وینا ګروپ ته راتلم اوس نه پوهیږم چې آیا دا ګروپ شتون لري که نه ځکه چې زه کار کوم او نشم کولی چې ونډه واخلم 20 کلن مهاجر افغان
Est-ce Est-ce que vous voyez aussi le nombre de ces personnes augmenter au fil des années, ou vous avez l'impression quand même que la demande est stable?
C'est très compliqué de répondre à cette question parce que ce qui s'est passé au fil des années, c'est que quand même, il me semble que les personnes exilées ont une possibilité maintenant d'accès aux soins qui s'est quand même développée, et ça c'est positif, notamment parce que ça a quand même évolué sur le recours à l'interprétariat professionnel dans ce qu'on appellerait le droit commun, c'est-à-dire les CMP, etc., qu'il y a aussi d'autres structures maintenant qui ont des ressources en matière de santé mentale notamment. Donc, d'une certaine manière, moi, je dirais qu'il y a des choses qui ont évolué de manière positive, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler plus, je trouve, en réseau ou dans différents types d'orientations, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, de savoir après s'il y en a plus ou pas, là, moi, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations réelles, vraiment, pour se positionner là-dessus. Nous, je dirais qu'on a toujours un nombre important de demandes. Par contre, ces demandes, on peut soit les accepter, les prendre en charge en interne, soit plus travailler des fois des orientations quand c'est possible. Et ça, donc, c'est plutôt positif. Par contre, moi, il me semble quand même, et ça, c'est assez inquiétant, c'est qu'il y a une partie maintenant de plus en plus de gens qui sont invisibles, que nous on va un petit peu toucher grâce au bouche à oreille qui fait que les gens viennent et, parce que dans la communauté ça a circulé, etc. Mais j'imagine qu'il y a aussi plein de gens que l'on ne voit pas parce qu'ils n'accèdent plus en fait à un référent ou à une personne qui elle va faire ce travail d'orientation. Et même si on le voit, donc c'est un peu ce que disait Véronique, mais c'est vrai que sur les orientations on a des chiffres, hein, c'est quelque chose qu'on peut comparer. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un avant et un après 2016, puisque du coup, tout ce qui concernait, que ce soit la plateforme Asile ou les CADA, ça a énormément diminué. Et à l'inverse, les venues spontanées, on appelle ça, c'est-à-dire les gens qui viennent se présenter, ont considérablement augmenté. Mais dans ces personnes qui viennent spontanément, du coup, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait rencontrer les équipes des CADA, faire de l'information et avoir une orientation derrière. Ben là, c'est délégué à la communauté. Donc, suivant les communautés, suivant les personnes, est-ce que ça circule vraiment de manière importante ou pas? Je ne sais pas. Donc, c'est très compliqué de savoir, pour nous en tout cas, par rapport aux personnes que nous accueillons, s'il y a plus ou moins de demandes de soins. Mais en tout cas, il y a plus, je pense, de personnes invisibles.
Et vous pouvez nous rappeler pourquoi après 2016?
Moi, il me semble que de manière générale, il y a une évolution. On est passé de structures associatives qui portaient des valeurs et un projet, notamment du coup en direction des publics, demandeurs d'asile, exilés, etc., à des structures maintenant qui répondent à des appels à projets, qui deviennent finalement en quelque sorte des opérateurs de projets décidés par l'État, hein, et que l'État demande à ses opérateurs de les mettre en œuvre. Mais sans forcément que ces structures défendent un projet en lien avec le public qu'ils accueillent, avec des valeurs, etc. Et il me semble que du coup, la dimension associative et humaine, on va dire, des fois, s'éloigne un petit peu des actions. Et on se retrouve avec des structures qui, malheureusement, mettent en place des choses aussi très difficiles pour les équipes. Hein, on le voit avec des souffrances assez fort, des turnovers, comme on dit, très importants. Ce qui fait que nous, par exemple, toutes les structures avec lesquelles on travaillait, pratiquement ont fermé ou ont bougé, ou les personnes, en tout cas, ne restent pas, ce qui pose la question de la formation de ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas le temps, finalement, d'acquérir une expérience, un réseau, etc. Et je pense que tout ça est à mettre en lien avec plutôt une évolution générale du tissu associatif vers une logique de marché qu'on peut, nous en tout cas au niveau d'Osiris, qu'on déplore, parce que finalement là-dedans c'est l'humain qui en fait les frais, quoi.
Et est-ce que ça joue aussi sur la notion qu'on avait abordée en préparant cet entretien, qui pour vous est importante, d'inconditionnalité de l'accueil?
Alors pour l'instant, dans le soin, il me semble qu'on est relativement protégé. Dans le sens où les personnes ont accès encore aux soins, notamment même dans les structures de droit commun, mais ça reste quelque chose qu'il faut défendre, et je pense qu'il faut être très vigilant sur cette question-là, parce que au vu des problématiques des personnes que nous accueillons, en tout cas nous dans notre manière de travailler, il est fondamental de pouvoir proposer à ces personnes des accompagnements thérapeutiques qui s'inscrivent dans la durée, en tout cas dans le temps nécessaire aux soins, et de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que même si leur situation sociale, juridique évolue, nous, on peut s'engager auprès des patients pour continuer nos suivis et accueillir les personnes. Ce qui nécessite du coup d'être complètement indépendant du statut de demandeur d'asile ou de réfugié ou de débouté ou dubliné, etc. Pour moi, c'est vraiment la base pour pouvoir entrer dans un lien de confiance avec les personnes et que les personnes fassent confiance aussi à notre institution. Et c'est vraiment le premier lien dans l'alliance thérapeutique que nous pouvons avoir avec eux. C'est vrai que ça reste du coup quelque chose qu'il faut défendre, parce qu'à terme, on peut imaginer des projets de soins qui seraient liés à un statut administratif et qui empêcheraient du coup de pouvoir s'inscrire dans cette temporalité qui est vraiment nécessaire aux soins, il me semble.
C'est quelque chose aussi que vous voyez dans votre rôle d'assistante sociale, justement d'arriver à jongler avec le fait que ces personnes, elles arrivent avec des statuts différents.
Elles arrivent avec des statuts différents et ce qu'on dit, c'est que la très très grande majorité des personnes vont être un temps en demande d'asile, ça va être un temps de leur parcours, mais évidemment qu'il va y avoir d'autres temps, heureusement, alors des temps avec parfois des choses qui s'améliorent en termes administratifs et puis parfois des ruptures par contre, et des temps plus longs avant d'avoir une stabilisation. Ce qu'on voit par exemple sur quand on parle d'insertion ou quand on parle aussi de même sur la question de l'accès aux soins aussi, il y a des projets qui vont être pensés pour les BPI, pour les personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale. Comme si cette question-là, cette préoccupation commençait avec ce statut administratif, alors qu'il y a déjà un long parcours en France avec une vraie demande, des vrais besoins, et que c'est complètement nié, et ça commence uniquement quand il y a cette reconnaissance. Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas effectivement, et c'est un parcours à penser sur, ne serait-ce que sur l'apprentissage de la langue, si on est sur quelque chose d'assez premier dans le fait de vivre quelque part. Ce n'est pas pensé au moment où la personne arrive, ça va être conditionné au fait d'avoir été reconnu au bout d'un an et demi, deux ans de présence sur le territoire.
Et ça, est-ce que c'est des choses au sein de réseaux, de partenaires ou avec vos partenaires financiers, etc., que vous arrivez à exprimer, à discuter, à confronter aussi avec d'autres expériences, par exemple ? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut changer aussi par les retours que vous pouvez faire du terrain ?
Moi, je trouve que c'est vrai que c'est des choses dont on peut parler, notamment avec même nos partenaires financiers, mais ça reste quand même pris dans des enjeux après qui, je pense, malheureusement dépassent notre action, quoi. C'est qu'on s'inscrit quand même dans quelque chose d'éminemment politique et même sur le plan européen. Enfin, c'est vrai que j'ai l'impression des fois qu'on soigne des choses qui sont quand même assez sciemment créé par les politiques, parce que, je veux dire, bien sûr, on parle beaucoup de ce qui se passe en Libye et on traite beaucoup ici de ce que les gens ont vécu là-bas. C'est quand même quelque chose de politique, ce qui peut se passer en Grèce, sur la route, enfin voilà, tout ce qui se passe en gros, ce qu'on soigne, c'est souvent quand même des choses qui sont en lien avec un contexte politique général et que, même si à notre petite échelle, on peut en parler, après, il y a quand même des éléments qui nous dépassent, quoi.
Ça me fait venir à la raison plus personnelle aussi, quand même, dans ces témoignages aujourd'hui de vos engagements respectifs au sein de cette association et pour soutenir ces missions, qui est en lien avec le titre de l'émission qui s'appelle « Pourquoi tu cries ?», mais du coup qui s'attache vraiment à comprendre pourquoi les personnes qu'on rencontre, elles s'engagent sur ces questions. Parce que pour moi, c'est pas anodin de choisir de travailler aujourd'hui au sein de cette association. Alors pourquoi vous criez, mesdames ?
Je ne sais pas si c'est pourquoi moi je crie. En tout cas, je peux dire ce qui me touche dans le travail que nous faisons et qui fait qu'en tout cas je suis encore là, peut-être, c'est que je trouve qu'on essaye en tout cas de travailler autour de la question de l'accueil et de la reconnaissance, c'est-à-dire de pouvoir proposer aux personnes un accueil où on va justement reconnaître aussi leur réalité psychique, ce qui est quand même pas évident dans tout ce qu'ils ont vécu et dans tout ce qu'ils vivent encore. Et d'une certaine manière, d'essayer de reconnecter aussi avec la personne, avec son histoire, avec ce qu'elle est en tant que sujet. Et c'est là qu'on en vient aussi à la question de la reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaître ce qu'elle a pu vivre, l'entendre, l'écouter, Et ça, ce sont des choses que l'on essaye de défendre un peu au quotidien dans la manière d'accueillir les personnes et qui, de notre côté, est aussi une grande chance parce qu'on a une espèce de fenêtre sur le monde là, avec ces personnes qui, je trouve, nous font confiance assez rapidement. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup. C'est à la confiance qu'ils peuvent nous faire. Je pense notamment grâce aux interprètes hein, aussi, qui justement vont être là, vont traduire leurs paroles, vont pouvoir faire ce lien parfois avec ce qu'ils ont pu vivre eux-mêmes et du coup favoriser ce lien de confiance qui va se créer. Voilà, donc c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, pouvoir encore accueillir ces personnes-là dans cette dimension aussi hein, du sujet, de sa réalité psychique, c'est pas... C'est aussi c'est quelque chose d'assez assez rare peut-être et en tout cas assez touchant.
Moi je rejoins Julia sur la question de l'accueil, sur la question de la reconnaissance. Moi forcément de ma place du social ou du juridique, il y a le fait que ces personnes puissent être reconnues, pour qu'elles puissent être reconnues en tant que personne, il faut leur donner une place en tant que personne et en tant que personne de droit aussi, sujet de droit. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se bat pour que les droits de ces personnes soient reconnus. On est confronté qu'à ça, qu'à du déni de droit, systématiquement, dans les évolutions dont on n'a pas parlé, mais qui sont une réalité qu'on vit à Osiris, mais qu'on partage bien sûr avec beaucoup d'autres. C'est le fait que pour ce qui relève du droit et ce qui devrait relever de l'évidence, ça va être une bagarre incroyable au point de chaque fois judiciariser cet accès au droit. Donc on en est là, en fait, à devoir avoir recours à la justice pour ce qui relève du droit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense aussi, qui nous anime, que ces personnes puissent être reconnues comme sujet de droit. Et ça rejoint évidemment le travail qu'on fait ici sur le fait qu'on accueille des personnes qui à un moment ont été mises à la marge de l'humanité, à la marge du droit, et ça fait partie vraiment de ça, de cette réappropriation d'une place de personne.
Merci à toutes les deux pour votre témoignage.
Merci.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.